Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, une question. Est-ce le signal de la reprise des grosses levées de fonds pour la French Tech? Il y a quelques jours, le français Electra a annoncé un tour de table à plus de 300 millions d'euros. Electra qui installe en France et en Europe des stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. Nous parlerons également de l'implantation de grands sites industriels en France. C'est un des enjeux majeurs de la réindustrialisation de notre pays. 2023 a été marqué par de bonnes nouvelles avec notamment Prologium, Novo Nordisk ou encore Holosolis. Que faut-il attendre en 2024? On en parlera avec Guillaume Gau, consultant dans l'industrie, qui vient de publier son étude annuelle sur les projets de méga-usines à ne pas rater cette année. Enfin, troisième invité de La France à tout pour réussir, Charles-Gaël Chaloyard, directeur général de l'enseigne Tout Faire. Son réseau de négoce et de vente de matériaux vient de commander une étude sur l'image de l'artisanat du bâtiment en France. Et à cette occasion, Tout Faire lance une grande campagne « Célébrons les artisans ». Mais tout d'abord donc deux levées de fonds dans la tech. On le rappelait la semaine dernière, l'année 2023 a été marquée par un recul assez fort des tours de table pour la tech et pas seulement en France. Et pourtant, eh bien, c'est une très grosse levée qui a été annoncée cette semaine. 304 millions pour le français Electra et ses bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Son président et cofondateur Aurélien Demeaux était l'invité d'Edwige Chevrillon cette semaine. Elle lui a d'abord demandé pourquoi un si brillant patron de la French Tech comme lui ne faisait pas partie du déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron au forum de Davos. Écoutez donc un extrait de cette interview.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec les start-up qu'emmène Emmanuel Macron à Davos? Parce que vous êtes une réussite incroyable.
Alors on a pas été invité, mais j'espère que ce sera pour la prochaine fois. Oui. Mais on est très soutenu par la French Tech et on a eu, je trouve, beaucoup de soutien. On a également la BPI qui est rentrée dans ce tour de table. Donc on a un écosystème qui nous porte particulièrement en France et je voulais le souligner.
Et vous avez reçu, je crois, le prix européen, la scale-up de l'année, parce que c'est la plus grosse levée de fonds dans la recharge électrique en France, et la deuxième en Europe. C'est de dire si c'est très important. D'abord, en deux mots, Electra, c'est quoi?
Electra, on a un opérateur de recharge rapide pour les véhicules électriques. Mmh. Donc on déploie un réseau en France, mais dans 7 autres pays en dehors de la France, donc dans 8 pays en tout, avec l'objectif de mailler le territoire avec des stations qui soient rapides, donc qui permet de charger une voiture électrique en 15 à 20 minutes et qui soit extrêmement simple à utiliser. Le but, c'est d'embarquer un maximum de monde vers la voiture électrique et pour ça, il faut que ça soit très simple.
Oui, aujourd'hui, vous avez 1000 points de charge. L'objectif, c'est 15 000, notamment grâce à cette levée de fonds en France, mais pas que dans les 8 pays européens parce que vous avez une ambition européenne. Pour l'instant, vous avez déjà du reste des partenariats avec des entreprises plutôt. Enfin, si, on ne vous trouve pas encore sur les autoroutes, quoi.
Alors, on a quelques stations sur les autoroutes avec notre partenaire Vinci Autoroutes. Donc, vous pouvez nous trouver un petit peu sur l'autoroute. Mais c'est vrai qu'on est principalement dans les agglomérations urbaines. Ouais. Donc, et c'est pas seulement les 3-4 premières villes de France. Hein, ça va être le top 20-25 des grandes villes en France. Donc, autour de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg. L'objectif étant que tous les gens qui n'ont pas forcément de parking ou la possibilité d'installer une prise puisse se recharger sur des bornes de recharge ouvertes au public.
Pour l'instant, vous avez avec des dettes. Je veux dire, votre business, il est très consommateur en capital.
Alors, c'est un business, effectivement, qui est à l'image de pas mal de business industriels ou d'infrastructures. Il y a d'abord un cycle d'investissement qui est assez important, qui nous permet de créer le réseau, un peu comme un Vercor qui, dans les batteries, va d'abord créer sa gigafactory de batteries. Et puis, ensuite, on va avoir un volume d'activité qui va nous permettre d'amortir les investissements plus toute la plateforme, parce que nous, aujourd'hui, on est 180 personnes, avec un gros effort sur la partie, notamment technologique, qu'on a développée en interne. Et tout ça, évidemment, ce sont des coûts.
Voilà, donc des coûts pour l'instant, mais a priori une forte rentabilité à venir ensuite. C'est ce qu'on leur souhaite. Autre levée de fonds annoncée cette semaine, 34 millions, dont 14 en fonds propres pour Vulcam. C'est une start-up industrielle créée en 2017 dans la région de Grenoble. Cet argent va leur servir à construire d'ici un an et demi une usine de 3000 mètres carrés dans le département de l'Isère. Donc, et sur place seront produites des pièces de métallurgie à la fois plus résistantes, plus élastiques, mais aussi plus dures. Et tout cela grâce à un procédé technologique que je serai bien incapable de vous expliquer. Sébastien Gravier, le président fondateur de Vulcam, est venu tenter de l'expliquer à Laure Clausier dans Good Morning Business.
Le fait de faire ça, comme vous le disiez, ça change fondamentalement les propriétés, que ce soit en termes de propriétés fonctionnelles pour l'utilisateur final, comme en termes de procédés de fabrication.
Alors qu'est-ce que j'en fais après, de ce nouveau matériau ?
Si on se focalise sur des choses qui sont un peu simples, on augmente très notablement d'un facteur 2 à 3 les propriétés mécaniques. La conséquence de ça, c'est que si on a un matériau qui est 2 à 3 fois plus résistant, on est en mesure d'utiliser 2 à 3 fois moins de matière pour fabriquer une pièce. Et donc, en conséquent, on peut miniaturiser les systèmes, on peut alléger, ou bien on peut augmenter la durabilité des pièces, puisque la résistance permet d'avoir des pièces qui sont plus durables.
Alors là, ça intéresse tout le monde, la santé, le luxe, l'horlogerie, l'aéronautique.
Notre objectif à moyen terme, c'est d'aller impacter fortement le domaine de la métallurgie au sens large. Après, on va y aller marche après marche. À l'instant T, on fabrique des kilogrammes de matière, on va passer à des tonnes.
Vous êtes les seuls au monde à faire ça.
On n'est pas tout à fait les seuls au monde. Il y a quand même quelques start-up. C'est des domaines qui sont concurrentiels au niveau mondial. Mais on va dire que si on est 5 au monde, c'est bien le maximum sur un marché qui est très large. Donc heureusement qu'on n'est pas tout seul, je dirais.
Anthony, mais là, ça existe déjà. C'est vertigineux ce que vous nous racontez.
Il va y avoir une usine. C'est
génial.
Déjà que ça avance.
Ouais, mais c'est ça.
C'est pas un labo de recherche.
Il y a des pièces qui sont déjà utilisées, par exemple, dans les hôpitaux. On peut imaginer dans le matériel médical, le matériel de précision, ça peut être extrêmement intéressant. Ça existe déjà ou on est encore à l'étape du prototype, voire du concept?
Alors, on a d'ores et déjà des machines qui sont automatisées. Donc, on a passé l'étape de la pré-industrialisation. On produit en série la matière. On produit en petite série, les pièces. Et pour l'instant, le choix qu'on a fait au niveau stratégique, c'est plutôt d'aller diversifier les marchés plutôt que de se focaliser sur un marché spécifique. Donc on a une grande gamme d'applications qui sont en développement et la montée en cadence va faire qu'on va se déployer sur des multisecteurs.
Voilà donc Vulcam, une nouvelle usine bientôt en France. Cela doit vous réjouir. Bonjour Guillaume Gau.
Bonjour.
Vous êtes donc consultant dans l'industrie. Vous venez nous révéler la mise à jour de votre étude annuelle sur les implantations industrielles de méga-usines, ces usines géantes qui sont prévues de manière générale en Europe, mais qu'on souhaite que la France ne rate pas donc en 2024. Vous en avez identifié 6, on va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, comme toujours, bilan et perspective. On va commencer par le bilan. En 2023, dans votre étude, vous identifiez 5 implantations à ne pas rater. Alors, quel est le bilan chiffré de ce top 5 de l'année 2023?
Alors, effectivement, il y a des aspects positifs à 2023. Donc, on a reçu Prologium, une entreprise taïwanaise de batterie qui va faire une grande usine à Dunkerque.
Donc, on est sur combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est sur combien sur les 5 avant de voir?
Environ 2 et d'autres que je n'avais pas vu qui sont arrivés dans l'année. Donc, je n'ai pas tout vu.
Et on reprend donc, voilà, sur le plus gros investissement, c'est Prologium, usine de batterie à Dunkerque.
Exactement.
Ça a été annoncé donc lors du sommet Choose France, c'était au mois de mai. Quel investissement et quel nombre d'emplois espérés?
Environ 5 milliards d'investissements pour 3 000 emplois à terme, donc c'est un gros investissement.
Qu'est-ce qui a joué dans le choix de la France?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est l'écosystème qui est en train de naître dans le nord de la France autour de la batterie. Ensuite, il y a l'énergie. C'est des industries très consommatrices d'énergie et on a du nucléaire juste à côté à Dunkerque qui permet d'amener de l'énergie décarbonée et compétitive. Donc ça, c'est vraiment deux éléments très importants.
Et les subventions publiques, ça compte aussi?
Et les subventions, une subvention de plus d'un milliard et demi d'euros. Donc effectivement, ça aide à prendre des décisions.
Alors si on reprend donc l'année 2023, autre investissement qui a été annoncé pour la France, c'est Novo Nordisk. On est là dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est à Chartres que ça va se passer.
Exactement, un investissement de plus de 2 milliards d'euros, donc du très lourd. Et donc ça va être pour agrandir le site existant, pour augmenter les capacités existantes Ça devrait créer plus de 500 emplois.
Un site voilà, qui est spécialisé dans les traitements anti-diabétiques et donc in fine aussi dans un marché colossal qui est celui de la lutte contre l'obésité. Vous l'avez dit, 500 emplois et 2,1 milliards. On continue ce tour d'horizon de 2023, cette fois-ci dans le solaire et dans l'est de la France avec Holosolis.
Oui, Holosolis, c'est un consortium européen qui va créer sa première usine de panneaux photovoltaïques. Ils ont choisi la Moselle parce qu'il y avait un terrain qui était disponible très rapidement. Justement, un ancien projet...
Qui n'avait pas abouti, c'est ça ?
Exactement. L'ancien projet avait arrêté. Du coup, le terrain était dispo et ils ont pris l'opportunité.
C'était Rex Solar, je crois, qui avait finalement opté pour les États-Unis.
Exactement. Voilà, donc, une défaite qui se transforme en victoire.
Ce terrain-là. Alors, nous, on préfère les victoires. Mais il y a parfois quelques échecs, évidemment, parce qu'on est en concurrence sur bon nombre de projets. Si on reprend donc les 5 projets identifiés en 2023, BYD, le constructeur chinois de voitures, n'a pas choisi la France, il a préféré la Hongrie.
Exactement, donc ça c'est une grosse défaite parce que BYD veut faire une usine de la taille de celle de Tesla en Allemagne, donc très gros investissement. Et effectivement pour la France dont l'industrie automobile a beaucoup décliné, ça aurait été une bonne nouvelle de récupérer cette usine.
Et là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous ?
Peut-être le terrain disponible rapidement. Il y a aussi des enjeux géopolitiques parce que la Hongrie se veut être la place d'accueil des investissements chinois en Europe. Donc il y a aussi beaucoup de géopolitique dans ce choix, je pense.
Est-ce que BYD c'est mort en France ? On sait qu'ils ont peut-être d'autres projets ou d'autres constructeurs chinois. On en parlera sur 2024. Mais est-ce que c'est mort d'avoir un nouveau, on va dire, de Toyota comme il y a eu il y a quelques années qui est arrivé en France ? Est-ce qu'un tel projet et tout l'impact que ça a eu sur les Hauts-de-France, mais pas que, est-ce que c'est inenvisageable ?
Il y a encore des constructeurs chinois qui veulent faire des usines en France. Et il y a peut-être Tesla aussi qui a annoncé vouloir faire une deuxième usine. Donc ça peut être de belles options de sortie.
Je reviens donc à 2023. Tout dernier point, dans votre top 5, vous identifiez aussi TSMC, donc le producteur de puces de Taïwan. Eh bien, il a choisi l'Allemagne.
Oui, donc les semi-conducteurs, l'Allemagne vraiment a additionné 50 milliards d'investissements sur les 3-4 dernières années. Et la France, seulement 8. Donc sur cet aspect, l'Allemagne a vraiment creusé l'écart et se présente comme le pôle principal des puces en Europe.
Quand j'ai lu votre étude 2024, sur ce bilan 2023, vous employez l'adjectif mitigé. C'est ce qui vous vient sur 2023 ?
Oui, parce qu'il y a eu de très belles victoires qu'on allait chercher, donc il faut le signaler. Mais aussi, les défaites sont lourdes parce que c'est le leader des puces mondiales et le leader mondial de l'automobile électrique qui ont choisi leur usine en Europe en 2023. Et aucun des deux n'a choisi la France, donc c'est assez mitigé.
On va espérer que d'autres vont faire le choix de la France en 2024. Donc l'autre aspect de votre étude, c'est évidemment les 6 grands projets. On va les détailler. On va commencer par Moderna. Là, on se dit quand même qu'il y a un PDG français, même si le groupe est américain. Le PDG, c'est Stéphane Bancel. Est-ce que là, on a une chance quand même que Moderna investisse en France en 2024 ?
On peut l'espérer, justement, parce que le PDG déclarait sur votre antenne en septembre qu'il voulait faire l'usine en France, mais que les négociations étaient toujours en cours avec le gouvernement.
Vous qui êtes au fait, c'est quoi ? C'est mal parti, c'est mal engagé. On n'a pas actuellement de ministre de l'Industrie. Peut-être qu'on en aura dans quelques jours, un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Est-ce que vous êtes confiant ?
Je dirais qu'on peut être assez confiant sur le dossier. Je pense qu'on va arriver à une solution.
Vous l'aviez déjà évoqué, l'arrivée possible de Tesla. Tesla donc cherche un nouveau site. Et là, est-ce que cette fois-ci, ça peut être pour nous ? On sait qu'Elon Musk joue le chaud et le froid. Plutôt ces derniers temps, le chaud avec les autorités françaises. On en est où ?
Exactement, mais là, la concurrence, elle est féroce. Il y a l'Espagne aussi qui est très bien placée. Donc la presse espagnole a récemment révélé que Valence était en pole position. Et après... Elon Musk veut aussi faire des usines de panneaux solaires, de batteries haute puissance, donc il n'y a pas que l'automobile, donc peut-être que la France pourrait récupérer d'autres usines de Tesla, pas seulement dans l'automobile.
Décision attendue quand sur Tesla ?
Ils ont annoncé Tesla, Elon Musk avait annoncé fin de l'année pour une première décision, donc...
Et c'est un gros investissement, là je ne parle que de la partie automobile, avec 2 milliards d'euros et sans doute 1000 emplois à la clé, hein, d'après vos estimations. On continue sur le tour d'horizon 2024 avec Skeleton Technologies, que font-ils ?
Alors c'est une start-up estonienne qui fait des batteries haute puissance, et donc qui a déjà une usine en Allemagne, et qui a des gros actionnaires comme Siemens. Et donc là ils cherchent un nouveau site en Europe, et la France est bien placée pour l'accueillir dans la vallée de la batterie, dans la France, vu que l'écosystème est en... très dynamique. Donc décision aussi très dans les prochaines semaines, mois. Donc ça va être décidé très vite. Et concurrence avec l'Allemagne
et la Finlande.
Et la Finlande aussi qui s'est bien placée.
Umicore à présent, c'est un groupe belge.
Oui, donc c'est dans le recyclage des batteries. Donc ils voulaient faire une usine en Belgique, mais la Belgique, le problème, c'est qu'il y a peu de terrain et un manque de main-d'œuvre. Donc ils regardent aussi en France. Donc aussi, la décision devait être prise à la fin de l'année 2023. Ça n'a toujours pas été annoncé, donc je pense que la bataille est rude entre le nord de la France et la Belgique pour accueillir cette usine.
Il y a 1000 emplois à la clé. On continue avec un attelage franco-coréen, Alteo, comment on prononce WSCOP ?
WSCOP, oui, ouais. Je pense.
Et là, donc, on est encore dans les batteries, c'est ça ?
Exactement, c'est pour construire des filtres de séparateurs en composant des batteries, assez important. Et donc là, le projet avait été annoncé par le ministère de l'économie de fin 2022, et depuis, pas de nouvelles. Donc apparemment, il y a une très forte concurrence aussi des États-Unis sur ce dossier, donc à suivre.
Et vous évoquez donc un projet d'une usine automobile chinoise, donc on a déjà parlé de BYD, ça peut être qui ? Donc ça ne serait pas eux, ça serait peut-être quelqu'un d'autre ?
Non, il y a trois marques chinoises qui veulent faire une usine en Europe, qui ont déclaré vouloir faire une usine en Europe, donc SAIC, qui a la marque britannique MG.
Ah oui.
Il y a également Chery. Et donc ces marques veulent faire leur usine et donc mettre en concurrence différents pays européens. Et la presse française révélait que MG étudierait apparemment l'ancienne usine Smart en Moselle.
Ah oui.
Peut-être la reprendre.
Et au total, ces 6 projets que vous avez fléchés, identifiés pour 2024, ils représentent combien en milliards d'investissements et en termes d'emplois directs, selon vos estimations ?
Oui, donc ça représente à peu près 6 milliards et demi d'investissements et plus de 5000 emplois donc qui sont en jeu et dont l'implantation va être décidée dans les prochains mois ou en 2024.
On a commencé à en parler, mais renforcer l'attractivité de la France, ça passe par quoi ? Est-ce que ce sont les grands raouts de séduction comme Choose France ? Donc, il y en a eu un à la mi-mai, je crois qu'il y en a peut-être à la même période en 2024, je crois que la date n'est pas définitive. Ou encore, toujours à l'international, c'est la présence, on l'a vu sur notre antenne, d'Emmanuel Macron à Davos cette semaine, se mouiller la chemise de la part du président et du gouvernement sur ces grands sommets internationaux, c'est fondamental. Selon
vous. Oui, c'est important de montrer qu'on a envie d'accueillir ces usines. Après, il y a aussi des choses à améliorer dans le pays. Par exemple, je pense au délai d'implantation.
Ça a été amélioré ?
Qui a été amélioré par la loi industrie, mais apparemment, on va encore améliorer parce que c'est pas si amélioré que ça.
Vous disiez en 2022, il fallait 8 mois pour implanter une usine en Allemagne contre 17 en France.
Oui, c'est un rapport.
Le ratio a changé ou on est...
Donc, justement, la loi industrie vise à égaliser, faire 8 mois en France aussi. Ensuite, il y a aussi un enjeu de complexité administrative. Et sur ce sujet, apparemment, une nouvelle loi devrait arriver pour venir complexifier. Parce que même si les délais ont été réduits, il y a des incertitudes juridiques qui pèsent sur les projets, qui peuvent pousser les industriels à annuler des projets, puisque trop de risques juridiques sur certains sujets.
En 30 secondes pour terminer, Guillaume, sur ce qu'il faudrait améliorer. Donc on a parlé du changement de la loi industrie verte, entre autres, des choses à améliorer dans la politique de l'offre, une contre-attaque contre l'IRA, etc. Qu'est-ce qui peut être fait encore ?
Ce qui peut être fait, c'est déjà au niveau du foncier, qui est encore un enjeu. On n'a pas encore suffisamment de sites de grande taille disponibles en France et disponibles très vite pour pouvoir accueillir potentiellement du Tesla ou des grosses usines. Donc ça, c'est vraiment un enjeu et il y a un recensement qui a été relancé pour trouver des terrains comme cela. Ensuite, il y a aussi un enjeu fiscal.
Là, la France, les impôts de production.
Exactement. La France surtaxe son appareil productif par rapport à la moyenne de l'UE. Et donc, quand un industriel doit décider, il prend aussi en compte l'aspect taxe sur la production. Et là, on a encore du chemin à faire par rapport aux partenaires européens, clairement.
Voilà, tous les détails de votre étude passionnante, comme chaque année, donc à retrouver sur le think tank Le Millénaire, avec qui vous avez été en partenariat sur cette étude, et puis aussi sur votre propre site chroniqueoccidentale.com. Merci beaucoup, Guillaume Gaud, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On va faire une liaison, d'ailleurs une mise en relation, puisque je crois que votre papa a un magasin Tout Faire dans le Tarn, hein, c'est bien ça ?
Exactement, un magasin Tout Faire Bois à Castres.
Tout Faire Bois, voilà, c'est ça, à Castres. Eh bien voilà, la transition est toute trouvée. Bonjour, Charles-Gaël Chaloyard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de cette enseigne Tout Faire. Donc, on va parler avec vous de la revalorisation des métiers de l'artisanat, du bâtiment et de la construction. Mais d'abord, donc, présentez-nous ce réseau Tout Faire, dont le papa de Guillaume est un des adhérents.
Et on le salue, Christophe, d'ailleurs. Tout Faire, c'est un groupement d'indépendants. C'est le premier groupement d'indépendants en France, avec 450 magasins en France et en Belgique. Et on distribue des matériaux de construction. C'est à peu près 4000 passionnés qui conseillent des artisans, Ce sont nos premiers clients, mais aussi les particuliers à 40%. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 1,5 milliard en France et en Belgique.
Si on fait un petit peu d'historique, tout a commencé, je crois, en 1982 dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est. Ensuite, la marque Tout Faire Matériaux en elle-même a été créée au début des années 90. Vous êtes devenu Tout Faire, on a enlevé la partie matériaux en 2022 et donc ensuite Tout Faire Bois en 2010. Au total, je ne sais pas si vous l'avez cité, le nombre de collaborateurs dans l'ensemble des magasins ou de la structure
on est à 4000 personnes qui conseillent effectivement nos différents clients.
Avec une plateforme, je crois, qui a été créée il y a une dizaine d'années du côté d'Orléans, qui est vraiment un peu le cœur de l'activité de tout ce que vous pouvez proposer à vos adhérents qui ensuite le prennent dans leur propre magasin.
On livre tous les jours nos 450 points de vente à partir de cette plateforme logistique où il y a 100 personnes qui travaillent au service de nos adhérents.
Vous avez combien de références sur cette plateforme ?
On a plus de 15 000 références pour l'instant et on augmente chaque année évidemment pour davantage servir nos adhérents et les artisans derrière.
Absolument. On en vient donc à cette étude réalisée à propos des artisans par Opinionway, réalisée auprès de 1000 Français et de 302 artisans justement de la construction et du bâtiment. Qu'en ressort-il tout d'abord en termes d'image des métiers, je crois, jugés importants pour la société dans son ensemble?
Alors, ce qui était très intéressant pour nous, c'était de faire un comparatif, une enquête miroir entre ce que pensent les Français des artisans et ce que pensent eux-mêmes les artisans. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, 70% bonne nouvelle, des Français ont une bonne image des artisans, alors que les artisans, pas forcément. Et donc, c'était intéressant, cette étude, de voir ces différents paradoxes et ces résultats contrastés.
Et des métiers, donc, on l'a dit, mal reconnus aussi socialement, qui sont jugés durs, pénibles et peu modernes. C'est des adjectifs forts quand même. Hein.
Effectivement, et 69% des Français effectivement pensent que ce sont des métiers pénibles. Et pourtant, quand on pose la question, une autre partie de l'étude, aux artisans, on leur demande si c'était à refaire, 75% d'entre eux referaient le même métier. Donc on voit bien que ce sont des métiers de passion et des métiers de gens très engagés.
Et cette image et ces images, donc on l'a dit, dures, pénibles, etc. Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce que vous avez des points de comparaison? Parce qu'il y a quelques années, l'artisanat avait peut-être, comme l'industrie d'ailleurs, une image un peu moyenne. Est-ce qu'on ne revient pas à ces métiers plus manuels et plus dans la réalité?
Vous avez totalement raison. Pour l'instant, ChatGPT ne s'est pas encore posé de fenêtre ou isolé une maison. Donc on a besoin de personnes humaines, d'hommes et de femmes de talent qui viennent mettre leur expertise au service des Français. Et une chose très intéressante dans l'étude, c'est qu'on a, sur les 1000 Français qu'on a interrogés, 45% ont fait des travaux dans l'année. Et la note est de 8 sur 10. Donc on voit bien que les Français sont satisfaits des artisans quand ils travaillent pour eux.
Et le problème de ce déficit d'image, est-ce que ce n'est pas donc aussi des difficultés ensuite de formation et puis des difficultés aussi de transmission des entreprises? Parce que ce sont souvent de petites entreprises familiales mais qui ont du mal à trouver des repreneurs.
Vous avez tout à fait raison. 80% des artisans ont du mal à recruter et on voit que 70% se posent des soucis pour transmettre leur entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il nous est apparu extrêmement important chez Tout Faire de revaloriser ces métiers qui sont peu reconnu en lançant une grande campagne.
Que vous venez de lancer ?
Célébrons les artisans, absolument, qui a été lancée hier soir et qui est déployée dans tous nos magasins aujourd'hui, dans nos 450 magasins, pour montrer à quel point ces professions, si souvent oubliées, sont très importantes dans notre quotidien, mais aussi pour notre avenir, avec des enjeux de rénovation énergétique extrêmement forts.
Alors cette campagne, elle passe par quoi ? C'est du visuel, c'est de la vidéo, c'est quoi ?
Alors il y a effectivement un ensemble de choses. Il y a d'abord, on a fait une campagne sur un chantier il y a quelques jours à Toulouse en mettant en scène une affiche très très grande, en mettant en scène des photos.
On voit quelques photos, pour ceux qui nous suivent en télévision.
Des photos, on a sublimé des artisans, parce que les modèles, ce sont des vrais artisans, sublimés par François Rousseau, un photographe qu'on apprécie beaucoup, avec notamment les dieux du stade. Et on a voulu, évidemment, dans ce timing, on va beaucoup parler de sport, où la France va accueillir le monde entier dans des stades, dans des infrastructures rénovées. On a voulu mettre ces professions de l'ombre.
Les athlètes de l'ombre, vous dites.
Exactement,
c'est ça.
Absolument. C'est nos athlètes du quotidien.
Et ce sont vraiment de vrais artisans qui poussent les portes de vos magasins tous les jours ?
Ah, ce sont des clients tout faire. Hossein, Mathias, Maeva, Pierre-Frédéric et Halloween sont effectivement des véritables artisans. C'était très important pour nous chez tout faire, cette valeur authenticité, d'incarner par leur présence les artisans.
Donc il y a ces visuels, il y a aussi une bâche géante, je crois, de 350 mètres de haut, de
350 mètres carrés, 32 mètres de haut, voilà. Qui a été évidemment déployé, qui va être déployé également la semaine prochaine sur notre salon, notre grand salon que nous organisons à Lyon. Et puis dans tous nos magasins, ces bâches sont déployées chez Christophe Go également, pour montrer à quel point on les apprécie et à tellement ils sont importants pour nous.
Allez chercher les artisans. Je crois que vous dites que 50 000 artisans poussent les portes de vos magasins chaque jour. Hein.
C'est exactement
évidemment ça. Un chiffre gigantesque. Les accompagner, c'est aussi, je crois, depuis quelque temps, des vidéos, des espèces de tutos pour les accompagner sur les différents aspects, pas que du technique, mais aussi l'aspect juridique, RH, etc.
C'est extrêmement important pour nous de leur apporter beaucoup de services. Ils ont énormément, leur métier a été énormément transformé, avec beaucoup de normes, avec des enjeux très forts, rénovation énergétique, MaPrimeRénov' qui bouge beaucoup. Et donc, on se doit, nous, en tant que premier partenaire, de les accompagner dans plein de domaines, jusqu'à des comportements avec leurs clients, comment mieux vendre, comment mieux fidéliser. Et ça fait partie, effectivement, de notre travail.
Un mot aussi sur la campagne de recrutement que vous avez lancée en 2023. Je crois que vous recherchez 1000 talents, pas simplement dans l'artisanat, mais de manière générale. Qu'est-ce qui vous manque comme métier et quel est le premier bilan de cette campagne ?
Alors, on a lancé une campagne, évidemment, face à ce qu'on appelait un peu une sorte de grande démission. Et donc, on a besoin de personnes dans nos magasins, de conseils, pour conseiller ces particuliers et ces artisans sur toutes les transformations des produits, parce qu'il y a énormément d'innovations. On a besoin de chauffeurs, on a besoin de personnes sur nos parcs aussi. Et donc, on a lancé cette campagne et en fait, on l'a voulu évidemment un peu décaler et on a reçu 600 CV en deux jours. On était vraiment ravis de pouvoir aider nos différents adhérents en leur apportant des CV qualifiés, des gens motivés qui sont prêts à s'investir dans des métiers qui sont quelquefois difficiles.
Un mot enfin en quelques secondes sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron mardi dernier. Pas beaucoup entendu parler de l'artisanat, ça vous a déçu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous attendez plus généralement de l'exécutif en quelques mots ?
Je crois qu'on a un objectif très fort sur la partie du logement, des objectifs qui sont extrêmement élevés. On a une construction neuve qui est vraiment à la peine et des enjeux très très forts pour décarboner l'habitat et décarboner le monde du bâtiment en général. Et donc, effectivement, on attend vraiment de la lisibilité et on attend un temps long, en fait, de ne pas changer de réforme extrêmement souvent comme c'est le cas pour MaPrimeRénov', où il y a des changements tous les 4 mois.
Message passé. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler à la fois de l'artisanat et de l'industrie. C'est cette diversité que l'on aime dans la France à tout pour réussir. Émission diffusée, vous le savez, en télé, en radio et sur l'ensemble de nos supports digitaux. La semaine prochaine, nous parlerons encore un peu d'artisanat. On parlera notamment de la coutellerie de Thiers. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France à tout pour réussir.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.